Alors, chers amis, bonsoir, puisque ce soir, il n'y a que des amis. Claude, regarde bien, je prends des photos, on filme de toute façon. Donc, je vous accueille, je suis ravi de vous accueillir. Pour le reste, Claude sera accompagné de Willy Safran et de Joël Rubinsfeld pour animer un mini débat qui ne tournera certainement pas autour de Ganinou, mais uniquement autour de son ouvrage, donc un ouvrage de pédagogie. La présentation va durer entre un quart d'heure et une demi-heure. Après ça, il y aura questions-réponses. N'hésitez pas à demander le micro. Et pour le reste, je vais quand même vous rappeler que vous êtes chez Filigrane et que nous vous proposons des soirées caritatives. Il en reste trois avant la fin de l'année. Tous les jeudis, nous sommes ouverts jusqu'à 23h30 au profit de différentes œuvres. Demain, nous sommes ouverts pour Nopilif. Dans 8 jours, pour Mama Béoué, Maison Brabant Wallon, qui accueille des femmes qui ne savent absolument pas où aller quand elles sont en difficulté. Et dans 15 jours, Sauver mon enfant, donc Bruckmann, que vous connaissez tous, je suppose. Lors de ces soirées, 25% de la recette est reversée à l'œuvre. Donc si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Hanouka, n'hésitez pas. Saint-Nicolas, vous êtes peut-être quelques-uns à en offrir. Et puis pour la fin d'année, donc venez acheter un maximum lors de ces soirées. Et malheureusement, Claude n'est pas là lors d'une de ces soirées, mais reviendra certainement pour reverser les bénéfices. Après, vous l'avez entendu, Claude nous offre un petit verre de l'amitié accompagné d'une petite surprise. Et surtout, sa présentation se terminera, pour ceux qui l'ont connu à Ganinou, par quelques chansons. Voilà, alors j'appelle les deux complices, Willy et Joël. Je crois qu'il est temps de commencer. Où sont-ils ? En voilà un. Et voilà l'autre.
Je dois remercier tout d'abord Marc Philipson. Philipson, Filigrane, ça devient synonyme pour sa gentillesse, pour son aide et son accueil chaleureux. Et je commence par les remerciements parce que je les oublie quand c'est à la fin. Alors je voudrais remercier Chava. C'est le commanditaire du livre. Ça a pris quelques mois, mais tu sais, tu vas écrire un livre. En traduction littérale, Atatürk Sefer, Vetagid Macha Sita. Alors j'ai écrit un livre et j'ai raconté un peu de ce que j'ai fait. J'ai eu la chance d'avoir auprès de moi le professeur Willy Safran. Je le connaissais depuis longtemps, mais depuis mon départ de l'école, il n'a pas travaillé en tant que psychologue avec moi, il travaillait en tant que copain. Et j'ai envie de plagier Enrico Macias et de lui dire, quand j'ai quitté l'école, « Toi, Willy, tu m'as pris dans tes bras. » J'ai eu l'encouragement de Willy. Je lui ai montré quelques chapitres. Je lui ai dit, « Dis-moi, c'est bien, ça vaut rien. Est-ce que je continue ?» Et puis, à ma gauche se trouve mon ami Joël Rubinsfeld. Ça n'a pas été le coup de foudre. Je l'ai connu, il avait 11 ans. Je ne sais pas si on s'est beaucoup aimé à l'école primaire, mais lorsqu'il est devenu grand et actif, comme on sait, cette histoire d'amour s'est développée. Je suis très heureux qu'il soit là et qu'il ait accepté de témoigner dans ce livre. Je remercie ma famille, mes enfants, mes beaux-enfants, j'aime pas dire mes beaux-enfants, c'est parce qu'ils ne soient pas beaux, ils sont très beaux, mais c'est comme mes enfants. Et certainement mes 6 petits-enfants qui se demandaient pourquoi ils n'étaient plus à Ganinou. Je voudrais aussi remercier les autres qui ont accepté de témoigner. Mais avant de les remercier, je vais m'excuser auprès de ceux qui ont apporté un témoignage et que je n'ai pu malheureusement pas publié, parce que le livre est ce qu'il est. Et l'éditeur, je ne sais pas comment on peut être ami avec un éditeur, mais l'éditeur, qui se voit très bien de notre côté, est devenu un ami. Mais être ami avec un éditeur, il faut être très tolérant. Alors, je remercie la famille Alexandre. Je remercie Sébastien Delvaux, Patricia Ecotte, Martine Kissous, Josiane Renders, Viviane Schaeffer, Sharon Till, mon frère jumeau à la direction, Baudouin Vouet, Émilie Weissblom et Sylvain Atsour. Merci d'avoir accepté de témoigner dans ce livre, Une école juive au cœur de l'Europe. Et je transmets tout de suite le micro au professeur Willy Safran.
Merci. Mesdames, messieurs, chers amis, en vos qualités diverses, j'ai eu le privilège de lire le tapuscrit de Claude Darmon au fur et à mesure où il me transmettait les différents chapitres en ordre dispersé, je dois dire, mais avec une rapidité absolument étonnante qui me faisait penser que tout était déjà inscrit à l'intérieur de lui-même et qu'il lui a suffi de mettre cela sur papier. J'ai lu ce tapuscrit avec énormément de plaisir. J'ai été vraiment fasciné par la perception du développement d'un certain nombre de principes éducatifs et pédagogiques initiés par lui et par sa femme Chava, et surtout ce qui apparaissait dès les premiers chapitres, c'était une forme de jubilation, de bonheur qui explique le titre même de son ouvrage, Une école juive au cœur de l'Europe, plaidoyer pour une pédagogie du bonheur. Je ne vais bien entendu pas rentrer dans le détail du contenu de ce livre, puisque vous êtes ici et que vous allez certainement le lire et que je suis certain qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà lu. Le fil conducteur de ce qui est en fait essentiellement un parcours intellectuel, autobiographique, mais essentiellement intellectuel, d'un psychologue et d'un pédagogue hors pair, c'est la construction d'une identité juive dans le monde moderne, que ce soit en Israël ou dans la diaspora. Et si quelqu'un comme Eric Erickson de l'école de Palo Alto, si je ne m'abuse, prétendait au début des années 1960 que nous nous trouvons dans la modernité, dans une période de crise identitaire qui doit faire l'objet des préoccupations de la psychanalyse, alors que à l'époque de Freud, la préoccupation majeure était la sexualité. Je vous dirais que les problèmes de la psychosexualité sont loin d'être résolus à l'heure actuelle, mais que les problèmes des crises identitaires existaient en fait déjà depuis l'avènement de la modernité et plus particulièrement en ce qui concerne le judaïsme.
Que faire dans la vie? Et je crois que les anecdotes qui sont relatées dans... Toutes vraies. Je crois que les anecdotes qui sont relatées dans ce livre nous amènent souvent à être à contre-courant de notre conscient, ou en tout cas de notre inconscient. Et c'est ce qui m'a amené pendant près de 45 ans de direction d'école à comprendre ma profession. Alors, je vais justement commencer par l'esprit anarchique. Je suis arrivé en première année primaire à Oran, en Algérie, après la fête de Pessah. Parce que, jusqu'alors, les Juifs étaient interdits d'école. Et la première vision que je vois à ma première récréation, c'est un enfant qui pleure avec le cahier au dos et un bonnet d'âne. Je ne dis pas que c'est pour ça que je suis devenu professeur. Je ne dis pas que c'est pour ça que j'ai choisi, après mes études, de diriger une école. Mais ça m'a certainement marqué. Il y a une deuxième phrase qui m'a beaucoup marqué en étudiant la littérature juive. Elle est de Chaim Nachman Bialik. Et il dit ceci, en traduction un peu libre. La honte est aussi grande que la douleur et peut-être encore plus grande. Ce qui m'a amené dans ma vie, entre guillemets, d'éducateur, de ne pas montrer à un enfant juif de courber les chines. Il ne faut pas. Parce que la punition, c'est offenser l'enfant, enfoncer. À Oran, on avait un problème de en. Donc, enfoncer l'enfant dans un manque de confiance en lui. C'est provoquer une envie de vengeance ou bien le désespoir, suivant comme nous sommes faits, où j'ai envie de me battre et de me venger par rapport à celui qui me punit, ou alors c'est le désespoir, je ne vaux plus rien, je suis nul. Combien d'élèves disent « je suis nul » ? Mais c'est de notre faute à nous. Ensuite, combien de fois n'ai-je pas entendu dans mon bureau « j'ai été puni, j'ai fait ma punition, maintenant » je peux revoir la vie différemment. Comme s'il voulait me dire, dans une langue d'un adulte, j'ai payé ma dette, alors je peux recommencer. Skinner nous disait que la punition n'est valable que si elle est donnée au moment de la transgression et qu'elle soit de faible intensité. Alors on conseille plutôt des conséquences naturelles. Quand j'entendais un professeur menacer de bonne volonté un élève en lui disant, ou des élèves qui étaient faibles en classe, « Attention, vous allez doubler si vous ne passez pas cet examen. » Je crois que c'était la seule façon d'amener ces enfants à l'échec scolaire, à perdre la confiance. Je crois que l'encouragement est le moyen, l'outil principal dans le cheminement scolaire, l'encouragement. Donc, quand on vient, parce que depuis l'apparition du livre, j'ai eu de nombreux coups de fil et des emails, pas d'insultes, hein, mais comment peux-tu éduquer sans enseigner ? Comment peux-tu enseigner et éduquer sans punir ? Alors, je me rappelle le reproche de ma fille Michal qui me disait « Tu ne m'as jamais puni. » Ok. Lorsque la Mishnah dit Choser Shifto Son Ebno, c'est-à-dire si tu économises ton bâton, tu haïs ton fils, c'est parce qu'on traduit mal. C'est pas le bâton, c'est l'autorité. Donc, ce qui compte lorsqu'on éduque un enfant, ce n'est pas de le punir. Tu n'iras pas dimanche à l'anniversaire de ton meilleur ami. Mais entre le lundi où j'ai cassé 3 pots de confiture et le dimanche où je ne vais pas aller à l'anniversaire de mon meilleur ami, je ne fais plus dans mon conscient aucun lien entre ces deux phénomènes. Donc, le principal, c'est la désapprobation. C'est le désaccord. Montrer son désaccord. Non, je ne suis pas d'accord que tu fasses ça. Je te désapprouve. Je n'aime pas que tu fasses ça. Mais de là à lui dire, ça me rappelle une blague. Un curé appelle un rabbin dans le village, il dit, tu sais, je pars 3 jours, il y a ma sœur qui est mourante. Viens me remplacer. Ah ben, moi je sais, viens en stage chez moi, 2 heures au confessionnel. Le rabbin se cache. le curé accueille la première personne. Mon père, dit cette personne, j'ai menti 3 fois. Bon, vous me ferez 3 patères. Une deuxième personne arrive. Mon père, j'ai menti 3 fois. Le curé à la deuxième personne. 2 patères. Et puis 3, 4. Et le lendemain, le rabbin remplace le curé. Et la première personne qui arrive, mon père, j'ai menti 1 fois. Et le rabbin de dire, alors allez mentir 2 fois parce qu'en ce moment, il y a une promotion. Donc, ce qui veut dire que la punition n'est pas encore l'outil principal pour que nos enfants et nos adolescents adhèrent aux attitudes que nous souhaitons leur donner. Le professeur Safran a rappelé Erik Erikson. Erik Erikson dit facilement, l'adolescent est un mode, entre guillemets, de vie entre l'enfance et l'adulte. Et je crois qu'à partir du moment où nous considérons l'enfant, ANT deux fois, comme une entité qui vit, qui se réalise, à ce moment-là, je crois qu'il peut mieux nous comprendre. Parce que le problème scolaire, et là j'arrive à ce fameux chapitre où j'ai eu des histoires autant avec Rava qu'avec l'éditeur. Mais je n'ai pas abandonné cette phrase. C'était, pareil que c'était une phrase qu'on ne comprend pas, vous ne jugerez pas vous-même, la conceptualisation de la motivation, comme si c'était chinois. Mais quand je pose la question éduquer et enseigner, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, je crois qu'il ne faut pas confondre encouragement et salaire. Et il ne faut pas confondre non plus conséquences naturelles et punition. D'une part, le phénomène est intériorisé, d'autre part, il est extérieur. Et je crois que c'est la chose à laquelle il faut faire attention. Samuel Coleman, je ne souligne pas à chaque fois que mon érudition vient de psychologues américains juifs. Mais c'est comme ça, c'est un fait. Et Samuel Coleman parle d'une chance égale à tous. Isdamnut shava lakol. Une chance, la même chance à tout le monde. Ça ne veut pas dire donner les mêmes tâches, ça ne veut pas dire donner les mêmes travaux, ça ne veut pas dire donner la même leçon. Ça veut dire prendre l'enfant, prendre l'élève, et lui, je dirais, extirper le meilleur de lui-même. Alors là, on sait qu'on a fait son travail. Parce que je crois qu'il faut distinguer le savoir-être et le savoir-faire. À mon avis, c'est la alphabet, c'est la clé de l'enseignement et éducation. Je voudrais pouvoir dire ça, bedibour echad, comme on dit en hébreu, en un seul mot. Le savoir-faire, j'ai appris le théorème de Pythagore, par exemple, et je l'applique. J'ai appris qu'en général, en français, un nom commun au pluriel prend un S. J'applique. Et j'applique. Ça, c'est le savoir-faire. Le savoir-être, c'est apprendre à apprendre. Ça veut dire acquérir des attitudes qui seront les miennes plus tard. Je me prépare à avoir des attitudes. Je me prépare à être un homme, une femme, adulte, avec mes responsabilités, mes déboires, mes chances, mes satisfactions. D'ailleurs, dans le livre, il y a une phrase dont je suis très fier. En apprenant à un enfant à apprendre, on le rend éternel. Il dit plus ou moins ça, et je suis très content de pouvoir dire cette phrase. Alors, j'avais fait un jour auprès des élèves, je m'étais intéressé. Qu'est-ce qui préoccupe des élèves à l'école? Des adolescents. Qu'est-ce qui les préoccupe? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Eh bien, j'ai été étonné parce que le grand pourcentage des élèves reprochaient à leurs professeurs le manque de didactique, de ne pas approprier l'enseignement à leurs possibilités, à leur conscience. Vous lirez dans le livre, c'est tout un détail de ce questionnaire. Le reste, les récréations, la longueur du cours, les vacances, les loisirs, c'était subsidiaire, c'était après. Ce que l'élève voulait, c'est qu'on le comprenne. Et c'est là où nous arrivons au fait que lorsque je me promène en forêt, je dois voir chaque arbre. Lorsque je suis directeur d'école, je dois voir chaque élève. Lorsque je suis enseignant dans une classe, je dois voir chacun de mes élèves. Et je ne dois pas considérer la forêt en tant que telle et que l'arbre soit celui qui va servir la forêt. Non. La forêt, bien sûr. L'école, bien sûr. La famille, bien sûr. Mais chaque individu pris à part, c'est là le secret du bonheur. Pourquoi le secret du bonheur? Parce que je vais savoir son bonheur, son bien-être, et je vais savoir son mal-être. Et lorsque vous enseignez, vous êtes devant une classe et vous enseignez la mathématique, le français, l'hébreu, ce que vous voulez. Il y a ici une anecdote sur la ponctuation. David, dit le maître, est un âne. Je mets les virgules et on a compris. Et ça n'intéresse pas cette classe d'option commerciale. David dit, mettre une virgule, ça n'intéresse pas. D'ailleurs, j'appelle cette anecdote la grammaire pour les riches, parce que c'est les riches qui ont la possibilité de s'acheter un livre de grammaire. Parce que un enfant, je ne sais plus comment je l'appelais dans le livre, lui veut devenir demain mécanicien. Alors, peu lui importe, lorsqu'il a 14 ans, 15 ans, 16 ans, de mettre une virgule ou un point-virgule, un point d'exclamation. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il a d'autres préoccupations. Alors, je ne veux pas dire qu'on ne va pas enseigner la ponctuation. Bien au contraire, on va l'enseigner. Mais on va d'abord et avant tout regarder chacune des composantes de notre groupe et savoir comment leur parler. Un enfant qui a mal au ventre, un enfant qui est en punition, un enfant qui a perdu son meilleur copain, ou quand on monte dans les classes de 13 ans, 14 ans, 15 ans, une fille qui a été abandonnée par son petit ami, etc., etc. Comme je voudrais laisser la place aux questions et aux sandwichs, mais d'abord à Joël Rubinfeld.
Merci Claude. Je voudrais ici, en fait, ce soir, surtout apporter un témoignage. Un témoignage en tant qu'ancien élève qui avait pour directeur M. Darmon. Et je pense que je me ferai aussi l'interprète de mes collègues d'alors qui étaient Odile, Isabelle, Alain et d'autres. Donc nous avons eu cette chance d'avoir M. Darmon comme directeur. Témoigner aussi en tant que parent d'élèves, puisque pendant quelques années, Claude et Chava dirigeaient l'école où sont encore aujourd'hui mes enfants, et aussi en tant que professeur d'un jour, puisque tu m'as donné cette grande opportunité à moi, à Frédéric Siaferi, à Elie Barnavi ou à d'autres personnes d'enseigner donc durant une journée, une fois par an, aux élèves, donc de leur apprendre, de leur faire part de notre approche par rapport à des sujets importants tels que l'antisémitisme, le sionisme et d'autres. Mais donc, ce témoignage voudrait rendre hommage à l'accomplissement, à ce que tu as pu réaliser, à savoir gérer une multitude d'identités qui parfois se télescopaient à Gannenou, à savoir dans le même élève était porteur d'identité multiple et il fallait apprendre à cet âge-là à gérer cela. Être belge, être juif, être sioniste. Et donc tout ça, c'était effectivement quelque chose de parfois compliqué. Et Ganenou a réussi à nous armer pour cela, à comprendre, à arriver à gérer des choses qui ne sont pas toujours faciles à gérer quand on a 10 ans, 12 ans. Et tout cela en alliant une autorité naturelle, une chaleur humaine. Vous avez pu faire Chava, Claude, mais je pense aussi aux autres personnes à Ganenou. Je pense aussi à M. Baudouin, qui avait peut-être... Je voudrais peut-être régler ici un compte. Monsieur Baudouin avait peut-être un plaisir sadique à m'envoyer, en fait, lorsque nous partions en excursion. Il se trouve que malheureusement, donc, les écoles juives, nous devons nous protéger contre d'éventuels attentats. Et donc, on peut en parler maintenant, il y a prescription, cela fait bien 30 ans. Monsieur Baudouin, donc, était armé. Et il m'envoyait chercher, toujours moi, qui arrivais un peu tremblant, cette arme qui était à blanc, enfin, qui n'était pas chargée en tout cas. Il m'envoyait chercher l'arme avant que nous partions en excursion. Donc c'était une grande responsabilité, mais c'était aussi une grande inquiétude, en fait, de me retrouver avec cette arme en main. Et effectivement, M. Baudouin, Rachel et Freddy Goldberg, toutes les personnes qui se sont investies dans cette école pour gérer cela, en fait, comme une entreprise familiale. Et c'est ça tout le défi qui a été relevé, ça relève vraiment de la gageure que de gérer une école où il y a, je pense, 700-800 élèves. Et donc, on parle ici d'une industrie. Il y a plus de 100 personnes qui travaillent dans cette école. Il suffit de visiter les cuisines. C'est assez impressionnant de voir ce qui se passe dans la cuisine. Eh bien, en même temps, vous avez pu insuffler cet esprit familial. Et moi, je vois aujourd'hui avec mes enfants où je me rappelle moi-même, bien que naturellement, nous n'aimons pas spécialement aller à l'école le lundi matin. Mais en tout cas, nous y allions comme nous passions d'une famille à une autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose d'assez unique. Donc, allier cette autorité, cet esprit familial et aussi inculquer la tradition et les valeurs juives. C'est quelque chose qui est tellement important pour nous de rester fidèles à cette éthique particulière et à ce rôle et à répondre à cette question à laquelle nous n'avons peut-être pas, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas encore tout à fait la réponse. Qu'est-ce qu'être juif et quel est le rôle d'un juif sur Terre? Parce que quelle est cette mission particulière que nous aurions peut-être à accomplir? Et tout cela, en tout cas, nous recevons plusieurs réponses à Ganenou. Après, à nous de décrypter cela et d'en faire bon usage.
Non, on va chanter ensemble. On va chanter ensemble et vous connaissez toute cette chanson. Et si vous chantez avec moi, je vous promets une petite surprise chantante après. Kol ha'olam kulo tzar me'od sher tzar me'od kol ha'olam kulo gesher tzar me'od gesher tzar me'od 1 2 3 ve'ha'ikar
לא לפחד, לא לפחד,
העיקר, העיקר.
לא לפחד כלל, אלף פלימית. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא... לפחד כלל והעיקר לפחד כלל והעיקר והעיקר לא לפחד כלל. Maintenant vous répétez après moi, c'est facile, ce que je dis, deux mots, vous répétez, deux mots, vous répétez, mais tous, puisque je le dis d'abord tout seul. Et alors les murs de filigrane sont solides, il n'y a pas de problème. Elamayan.
Elamayan.
Bagdi, bagdi, katan.
Bagdi, Bagdi, Katan.
Ela Mayan.
Ela Mayan.
Bagdi, Katan.
Bagdi, Katan.
Ha-shalom lo.
Ha-shalom lo.
Le-shmuel ben Reuel. Ha-shalom lo.
Ha-shalom lo.
Ule-rachel.
Ule-rachel.
Je vous remercie d'être ici avec nous. Je ne sais pas si on a eu le temps de ranger, d'arranger le buffet. Kossot. Les kossot, akossot, mukhanot, orchel, mukhan. Merci beaucoup. Toda rabba. Bisous.